Indulgence, ma fête divine, morue. Gloria, nous suivrons sur terre. Gloria, Rita du Calvaire. C'est bon? C'est bon? Un petit coup? Allez. Viens sur mon tracteur, viens. Si tu veux que je te laboure.
C'est bon?
C'est bon là?
C'est bon?
Allez, c'est bon.
Merci infiniment à tous les intervenants, notamment Sœur Innocenta, Sœur Extasia, Sœur Narta et Novice Valentine. Vous pouvez retrouver le site des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence par l'intermédiaire de notre site internet à nous, franceculture.com, tout attaché, tout minuscule, que ce soit pour entrer dans les ordres ou pour soutenir les actions de ressourcement organisées par le couvent de Paris. C'était une émission proposée par Joseph Confavreux, au mixage Marie-Dominique Bougot, à la réalisation Philippe Rouy.
Première diffusion, 18 septembre 2006. Nous retrouverons Pierre Chevalier à 16h, sur les docks, une rediffusion des Nuits Magnétiques, consacrée à la vie de concierge. La nuit s'achève maintenant. Bonne journée.
À mon avis, il faudrait être toujours prêt à donner et à recevoir.
Écoutez.
Avec la même grâce.
Vous êtes sur France Culture.
La radio.
France Culture.
Le feu teinte dans les cloches.
Vous écoutez.
Douce est la parole
France de l'eau. France Culture.
La clé des nuits légères enchaînées au cœur des
vous écoutez France Culture.
Au cœur de France Culture. Vivez avec France Culture.
Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Dans les vies parallèles, Plutarque raconte la vie d'Alexandre. Voici ce qu'on peut lire, je cite. Les soldats thébains luttèrent avec un courage et une ardeur au-dessus de leurs forces, car ils avaient en face d'eux un ennemi bien supérieur en nombre. Mais lorsque la garnison macédonienne, quittant la Cadmée, vint les charger par derrière, alors, enveloppés de toutes parts, ils périrent presque tous au sein même du combat. La ville fut prise, livrée au pillage et détruite de fond en comble. Alexandre, d'une manière générale, escomptait qu'un tel désastre frapperait les Grecs et que l'épouvante qu'il susciterait les dissuaderait de bouger. Alexandre, donc, n'acceptant que les prêtres, tous les hôtes des Macédoniens, les descendants de Pindare et ceux qui avaient voté contre la rébellion, vendit tous les autres au nombre de 30 000, il en avait péri plus de 6 000. Dans le cours que Denis Knopfler a consacré hier matin à l'analyse du récit que Pausanias, fit de sa visite à Thèbes, nous avons pu apprendre qu'en 369 avant Jésus-Christ, Thèbes était une cité au fait de sa gloire, une grande puissance qui s'était alliée à Carthage pour tenir Athènes en respect. Mais à l'époque où Pausanias, au deuxième siècle de notre ère, visite Thèbes, la grande cité n'est plus qu'une ville délabrée. C'est sur la destruction de Thèbes par Alexandre en 335, puis sur ses reconstructions, que porte le cours que nous écoutons ce matin.
Lorsqu'Alexandre eut mis toute la Thébaïde à feu et à sang, donc pas seulement Thèbes, mais son territoire, la Thébaïde, ce qu'il donc précise au chapitre 25 du livre 9, le Cabirion ne fut sauvé, dit-il, d'une attaque de soudards macédoniens que grâce à l'intervention miraculeuse de la divinité sous la forme d'éclairs et de coups de tonnerre venus du ciel. Donc, c'est un exemple pillage, mais pas nécessairement, ou de pillage ici, stoppé en quelque sorte par le dieu ou les dieux, mais pas de destruction complète. En tout cas, si l'on en croit, ici encore, le précieux témoignage d'Arien, notre meilleure source pour les événements mêmes de l'époque d'Alexandre, tous les hiérats restèrent en dehors du partage effectué au profit des cités voisine de Thèbes, puisque aussi bien Platée que Thespie, Tanagra profitent de, non seulement de la destruction, mais de l'anéantissement de l'État thébain, se partageant son territoire. Les hiérats restent en dehors du partage. Preuve, semble-t-il, qu'ils restaient largement debout. L'historien ajoute que furent épargnés aussi quelques maisons appartenant à des amis de la Macédoine, ou la demeure qui avait abrité l'illustre poète de Thèbes, Pindare, et sa famille, donc un bon siècle plus tôt. On voudrait savoir aussi ce qu'il advint en 335 des statues nombreuses qui ornaient la ville de Thèbes, notamment de celles qui avaient été érigées en l'honneur de grands généraux, hommes politiques thébains. Certains monuments honorifiques paraissent bien avoir échappé à la destruction. Ainsi aurait survécu l'effigie d'un poète, l'effigie du poète Cléon, qui est contemporain à peu près, ou en tout cas émule justement de Pindare, Cléon de Thèbes, puisque selon une tradition rapportée par le sophiste de l'époque impériale, Athénée de Nocratis, mais qui empruntait l'anecdote à une bonne source, le périégète hellénistique Polémon d'Ilion, cette statue, grâce au pli du vêtement dont elle était revêtue, cette statue aurait servi de cachette improvisée pour de modestes trésors que les habitants, dans la panique des derniers moments, aurait caché là, et qui n'aurait été retrouvé que 20 ou 30 ans plus tard, en tout cas après 315, et semble-t-il seulement, en l'occurrence, en 305, quand les Thébains reviennent dans leur ville. Donc les statues, certaines d'entre elles, étaient restées debout dans ce paysage plus ou moins sinistré. Mais quel fut le sort, alors, plus précisément, des monuments élevés au ténor de la politique thébaine à l'époque de l'hégémonie? On pense à Pélopidas, on pense évidemment à Épaminondas. Le témoignage assez vague de Pausanias est ici très insuffisant, car on l'a vu, rien ne prouve qu'il ait pu observer lui-même, copier aussi la belle épigramme qui ornait la base de la statue pour Épaminondas, qu'il ne connaît, je crois l'avoir montré, que de manière indirecte. Donc son témoignage ne prouve pas que cette statue existait encore. Certains piédestaux du IVe siècle sont certes parvenus jusqu'à nous, mais ce n'est pas encore peut-être la preuve absolue qu'ils n'avaient pas été touchés par la destruction de 335. On a, par exemple, je ne sans vouloir m'y attarder, un document connu depuis longtemps, une base, longue base d'ailleurs, incomplète, je n'en avais ici que le texte, je n'ai pas de photographie du monument, qui était une base composite pour des athlètes, thébains victorieux, deux inscriptions côte à côte, alors que le lit d'attente porte des traces semelles pour les bronzes. D'un côté, peut-être comme ceci, d'un côté une épigramme pour un certain Timoclès, déjà défunt, qui avait été vainqueur dans des épreuves hippiques, vous voyez à la fin, Hippois Nikesas, et dont la statue avait été érigée par Polycleitos, Polyclète. En réalité, il ne doit pas s'agir du grand Polyclète d'Argos au 5e siècle, cette inscription ne peut pas dater du 5e siècle, mais d'un élève, peut-être parent de cet artiste argien, connu par ailleurs et qui a vécu au 4e siècle. Sur le même monument, un autre athlète, un enfant, enfin un jeune homme, qui s'appelait Corweidas, vainqueur au Pancras à Delphes. On voit des allusions à Delphes, même si toute une partie de l'inscription, vous constatez, est restituée et de manière plus ou moins, disons, douteuse, en tout cas discutable. La victoire pythique est indéniable et la base et la statue ici était l'œuvre du grand sculpteur de Sicyone, Lysippe de Sicyone. Donc d'un côté Polyclète et Lysippe, et alors on a eu passablement de mal à situer dans le temps ce monument. D'ordinaire, le plus souvent, et encore dans une édition qui fait autorité pour les épigrammes, tout à fait recommandable, le recueil de Hansen, des Carmina Epigraphica Graeca, qui est apparu il y a quelques années, volume 2, numéro 630-786, on voit que l'opinion commune est que ce monument daterait seulement de la reconstruction de Thèbes, juste après 316. Ce qui est théoriquement, mais je dis bien théoriquement possible, étant donné que Lysippe de Sicyone, le grand sculpteur, le sculpteur d'Alexandre, qui a commencé sa carrière vers 370, a pu la prolonger éventuellement jusque vers 310, 300, à l'extrême rigueur. Mais cela me paraît, à vrai dire, très peu vraisemblable. Il me semble que les Thébains, revenus chez eux en 315, eurent des soucis tout différents et bien plus pressants que d'élever des statues, des monuments coûteux à leurs athlètes. Il est donc bien plus probable d'admettre que ce monument date encore d'avant 335, sans doute peu avant, puisque dans le cas de l'épigramme pour le jeune Corweidas, vainqueur au Pancras à Delphes, on ne peut guère la faire remonter plus haut que les années 340, attendu que l'épreuve du Pancras n'a été introduite que tardivement pour les enfants, dans la catégorie donc des païdes, dans les concours Pythia. Voilà donc un monument qui était encore très neuf, hein, en 335, au moment où arrivent les Macédoniens. Le fait qu'il soit arrivé jusqu'à nous ne prouve en aucun cas que les statues étaient restées, évidemment, sur le monument. C'est peut-être le contraire qui est le plus probable, et le bloc a ensuite été réutilisé d'une façon ou d'une autre. En tout cas, il me paraît clair que pour une autre base de Lysippe que l'on connaît aujourd'hui, qui est encore inédite, que mon collègue Pierre Ducret avait présenté dans un récent séminaire ici même, et qui est pour un général ayant lutté contre Sparte, donc datant nécessairement des années 370-360, pourrait être d'ailleurs Epaminondas en personne, il est clair là que cette base a dû être renversée, a dû être privé de sa statue de bronze. Donc, on peut penser que ce type de monument qui était emblématique de l'hégémonie thébaine en était la cible prioritaire des vainqueurs en 335. C'est ce qui est certain, en tout cas, c'est que la ville fut presque complètement abandonnée en 335. Il y eut certes des survivants au massacre, il y en a toujours, même dans les plus terribles, mais leur sort fut à peine plus enviable que celui des morts, puisque, nous dit-on, 30 000 personnes auraient été réduites en esclavage. Un nombre assez important de Thébains parvinrent néanmoins à s'échapper. Traitant de la petite ville d'Acraïphia, Pausanias dit avoir recueilli l'information selon laquelle des Thébains trouvèrent refuge dans cette petite cité béotienne toute proche de Thèbes. Mais c'était surtout, note-t-il, des vieillards qui n'avaient pas pu songer à fuir plus loin. Et notamment, il le dit déjà à cet endroit, 9:23-5, à fuir jusqu'en Attique. De fait, comme il le précise tout à fait explicitement dans le chapitre relatif à la reconstitution de Thèbes, un texte que je vais peut-être mettre sous vos yeux, le mot Athènes apparaît dans la deuxième ligne, pour les Thébains qui s'étaient réfugiés en masse, peut-être comme ceci, qui s'étaient réfugiés en masse à Athènes. C'est donc surtout à Athènes que les exilés thébains purent s'installer dans un premier temps, au moins ce fut le centre de la diaspora thébaine, peut-on dire. Et cet afflux de réfugiés aurait pu créer de sérieuses difficultés politiques aux Athéniens, si ceux-ci, en 335, n'avaient pas réussi, en dépit d'une hostilité fondamentale à l'égard d'Alexandre, qui s'exprime chez les orateurs que l'on connaît bien, Démosthène, Hypéride, les autres, si les Athéniens n'avaient pas réussi à rétablir très vite de bonnes relations avec le jeune roi, qui était surtout fort pressé d'entamer sa grande offensive orientale. Donc, ces Thébains installés en grand nombre à Athènes, et dont on a parfois la trace à travers tel ou tel épitaphe de la fin du IVe siècle, qui porte l'ethnique Thébaios, Thébaia, pour les femmes. Ces réfugiés durent rester là, pour la plupart en tout cas, jusqu'en 315, attendant le moment de revenir peut-être un jour dans leur patrie. Mais des exilés thébains se rencontrent aussi ailleurs. Malgré l'absence de preuves jusqu'ici, je croirais volontiers que plusieurs d'entre eux tentèrent leur chance dans le Péloponnèse, où Thèbes avait noué, on s'en souvient, des liens très étroits à l'époque de son hégémonie, en particulier bien sûr à Mégalépolis d'Arcadie et à Mécène. Comment en effet ces villes dont la fondation avait été suscitée, ou même parfois entièrement réalisée par Épaminondas, auraient-elle pu rester indifférentes aux malheurs subis par les compatriotes de leur ctistès, de leur fondateur? Une certaine philia ou eucharistia, à défaut d'une véritable syngenéia, d'une véritable parenté, a dû nécessairement jouer en pareilles circonstances. De fait, on constate, et cela me paraît très révélateur, que les Messéniens et les Arcadiens de Mégalépolis furent, au dire de Pausanias, dans le texte que vous avez sous les yeux, dès la cinquième ou sixième ligne, sun epelabonto de kai messenioi kai arcadon oi megalen polin et contes, donc les habitants de Mégalépolis, furent, selon Pausanias, parmi les plus enthousiastes, les plus résolus, protumotatoi, après les Athéniens peut-être, pour contribuer au repeuplement de Thèbes, à l'oïkismos, à l'appel du fils d'Antipater, c'est-à-dire ce prince Cassandre, fort ambitieux. Dans une étude récente, l'historienne italienne Cinzia Bearzot, un article qui est apparu en 1997, a défendu l'idée que si en 315, le jeune prince macédonien Cassandre prit l'initiative de ressusciter la ville martyre, ce fut précisément pour s'acquérir la faveur des cités péloponnésiennes, et notamment de ces deux cités, dans la lutte qu'il venait d'entamer, qu'il allait commencer, contre divers rivaux. Vous savez, c'est les années qui suivent la mort d'Alexandre sont chaotiques, puisque plusieurs, en Macédoine comme ailleurs, plusieurs maréchaux se disputent le pouvoir. Cassandre est très bien placé, il tient la Macédoine, il est le fils de l'ancien régent Antipater, mais il n'a pas les pouvoirs, il n'a pas reçu mission d'être le régent des rois. Donc, il cherche le moyen de reprendre l'avantage. Selon cette hypothèse, il aurait fondé Thèbes pour s'attirer la faveur des Péloponnésiens et de nos deux villes en particulier. L'hypothèse est certes intéressante, mais elle est sans doute très excessive aussi, dans la mesure où Cassandre pouvait avoir bien d'autres raisons que ce mobile un peu particulier de relever de ses ruines la ville de Thèbes, une cité, dit Diodore, si importante par son histoire et par ses mythes. Vraiment, hein, une cité de référence, on peut dire, à tous les points de vue. Sans parler de sa position stratégique, exceptionnelle, au cœur de la vieille Grèce, et son rôle comme centre économique de toute la Béotie. Selon Pausanias, toutefois, Cassandre aurait été animé par une raison d'un tout autre ordre. En refondant la ville de Thèbes, il aurait agi essentiellement par haine d'Alexandre, kata hektos Alexandrou malista. Mais que faut-il penser alors de cette motivation sentimentale, ou disons mieux passionnelle, qu'aurait eu le fils d'Antipatros, lequel, encore une fois, fut régent d'Alexandre en 300, jusqu'à sa mort en 319. Certes, on comprend que le Périégète ait pu concevoir et soutenir cette opinion, qu'il prétende d'ailleurs, vous le voyez, comme tout à fait personnel, dokei demoi. Il ne prétend pas défendre l'opinion commune. Puisque, dès l'époque de la fondation, Cassandre essuya le blâme des autres maréchaux d'Alexandre, et en particulier la critique très vive du plus puissant d'entre eux, le satrape d'Asie, Antigone Monophthalmos. En effet, dans ce qu'on appelle la proclamation de Tyr, en Phénicie, où se trouvait Antigone Monophthalmos à ce moment-là, dans cette ville de Tyr, disons-le au passage, qui est la voisine immédiate de Sidon, hein, qui se considérait, selon une idéologie peut-être remise en vigueur au goût du jour à la fin du IVe siècle, qui se trouvait être la métropole ancienne de Thèbes par le biais de Cadmos le Phénicien, et on le voit à travers, cela est exprimé de façon la plus claire, à travers une inscription hellénistique trouvée à Sidon même et publiée en 1939, donc les gens de Sidon y croyaient donc, attire la voisine de Sidon, en l'année 314. Antigone reproche publiquement à Cassandre d'avoir non seulement fait exécuter Olympias, la mère d'Alexandre, emprisonné la veuve d'Alexandre Roxane et le petit roi Alexandre IV, mais aussi d'avoir agi contre la volonté expresse du conquérant mort quelques années plus tôt, en installant dans la nouvelle ville de Cassandreia ses ennemis déclarés de la Macédoine, qui étaient les gens de la Chalcidique, les habitants d'Olynthe, et enfin, last but not least, en rétablissant la ville de Thèbes rasée par les Macédoniens. Tout cela, on le tire de belles pages de Diodore, livre 19, chapitre 61, à qui l'on doit la connaissance de cette très fameuse proclamation de Tyr. On voit ainsi que la curieuse motivation prêtée par Pausanias au fils d'Antipatros avait des racines très anciennes. Mais bien entendu, il ne s'agissait que d'une propagande malveillante destinée à isoler Cassandre, à le priver dans son pays même, dans la Macédoine, de l'appui des Macédoniens qui étaient restés fidèles à la mémoire d'Alexandre, en leur disant « Ne soutenez pas Cassandre, qui est un traître, qui fait tout le contraire, qui détruit la famille, qui anéantit la famille d'Alexandre, et qui fait tout le contraire de ce qu'a fait Alexandre, ou son père Philippe, en l'occurrence, dans le cas d'Olympe. Certes, il n'est pas question de faire de Cassandre un saint homme. Sa conduite cruelle à l'égard de la famille d'Alexandre est avérée, mais ce faisant, il n'agissait certainement pas par haine d'Alexandre, comme le suggère Pausanias, mais tout simplement par ambition et pour obtenir le pouvoir. Car Cassandre, en réalité, se sentait proche d'Alexandre. On sait qu'il épouse en 316 l'année qui précède la refondation de Thèbes, il épouse une demi-sœur d'Alexandre, Thessalonique, qui donne son nom à la ville de ce nom. Et de manière plus anecdotique, on sait que par un passage de Pline l'Ancien, qu'il fit commander à un peintre célèbre de l'époque un tableau monumental représentant la victoire d'Alexandre sur Darius III. Vous savez, c'est ce tableau dont on a sans doute l'écho dans une fameuse mosaïque de Pompéi au musée de Naples, l'œuvre de Philoxénos d'Érétrie. Un tableau commandé par Cassandre. Donc il n'est pas l'ennemi de... ce n'est pas la haine d'Alexandre qui l'inspire. Ce qui l'inspire, c'est peut-être d'abord, comme le dit de manière un peu générale Diodore, l'amour de la gloire, la philodoxia, dans la conviction que cet acte, au-delà de la gloire, c'est bien un acte politique, incontestablement, lui vaudra non seulement la reconnaissance des intéressés eux-mêmes, tous les survivants thébains, mais la faveur de presque tous les Hellènes, qui restaient traumatisés par cet anéantissement de Thèbes en 335. Donc, Pausanias s'est certainement mépris sur la motivation de Cassandre. Mais son erreur est intéressante. Et elle témoigne de la profonde animosité que lui-même avait à l'égard de ce prince, dont il dit pique-pendre toutes les fois qu'il le peut, notamment quand il s'agit d'Athènes, parce qu'il dépend très certainement d'un historien pro-athénien pour toute cette époque, et en concernant Cassandre, sans doute l'historien Douris de Samos, de la fin du IVe siècle. D'ailleurs, dans le passage même que vous avez sous les yeux, au milieu de ce passage, où il est question de tout ce qu'il a fait de mal à Alexandre, au fils d'Alexandre et à Olympias, Pausanias considère comme une juste punition divine que Cassandre ait été atteint d'hydropisie, qu'il ait été dévoré encore vivant par les vers, un peu comme ce fut le cas de Scylla qu'il aborde également, et que toute sa progéniture ait péri très rapidement dans une série de meurtres dignes des Atrides. Vous voyez, il a donc une haine encore très vive, très vivace, notre Pausanias, contre ce Cassandre, et il ne voit que cet aspect-là. En réalité, Pausanias ne l'ignorait pas. Le projet de Cassandre de relever Thèbes fut bien accueilli, même très bien, sinon en Béotie même, il faudra y revenir, du moins dans le reste du monde grec. On en a la preuve formelle depuis le temps déjà lointain où, en 1895, l'historien et épigraphiste Maurice Holo sut reconnaître dans un assez pauvre fragment d'inscription publié peu auparavant dans le corpus béotien de 1892, le reste d'un document capital pour l'histoire thébaine. La liste des cités, mais vous voyez que le document est très amputé, c'est un petit fragment, liste de cités et des souverains qui avaient contribué par leurs dons en argent à faire revivre la cité d'Épaminondas. Le premier éditeur n'avait presque rien compris, et pourtant ce n'était pas le premier venu, Dittenberger, qui était un des grands épigraphistes de la fin du XIXe siècle. Par une série de raisonnements tout à fait rigoureux, dont on verra quelques aspects tout à l'heure au séminaire, il parvient à découvrir le sens réel de ce texte très mutilé. Certes, dans cette liste, il manque, et on pourrait a priori être un peu gêné, les noms d'Athènes, les noms de Mécènes, les noms de Mégalépolis, mentionnés par Pausanias, comme aussi ceux des cités d'Italie et de Sicile, qui, selon Diodore, contribuèrent également, donc des cités fort lointaines, au relèvement de Thèbes. Cette absence n'est pas gênante, en réalité. Elle n'est pas gênante, puisque ces États devaient figurer en haut. Toute la partie supérieure du texte manque, et toute la colonne de droite également, dont on n'a que des bribes à la fin, avec des montants tout au mieux, ou quelques vestiges, c'est là que se trouvait la mention de ces villes, puisque la liste, si elle fut établie d'une seule fois, apparemment, et non pas tenue à jour au fur et à mesure des dons, elle était une liste récapitulative où l'on avait placé en premier lieu le nom de Cassandre, d'abord sans doute, et puis les cités qui avaient été les protumotatoi, les premières, les plus empressées à venir au secours de Thèbes. À droite, la mieux conservée, Ollo reconnut une mention qui s'est révélé tout à fait capital, c'est la présence d'une dîme ici, d'une décatè, d'une décata, et le fait que le mot rhodione figurait également de façon à peu près complète par rhodione, il parvint à découvrir là la mention de d'une consécration faite par le roi Démétrios, Basileus d'Amatrios, c'est-à-dire Démétrios Poliorcète, à la suite du siège de Rhodes de l'année 304. Donc c'était aussi un indice chronologique de premier intérêt qui venait très naturellement un peu après 315 et qui fournissait un point de repère pour les dons antérieurs, colonne de gauche, début de la colonne de droite, et pour les dons postérieurs. L'interprétation de Ollo a reçu d'emblée, et à juste titre, soulignons-le, l'approbation générale. Elle se trouve aujourd'hui confirmée, de manière un peu indirecte sans doute, par un nouveau fragment qui est encore inédit, que nous allons examiner tout à l'heure, de façon un peu plus attentive, inédit dont une copie m'a été ici fournie par le futur éditeur, le professeur Kostas Bourasselis de l'université d'Athènes. C'est un fragment qui vient se placer sans doute vers le bas de la stèle, dans la colonne de droite. Certes, on aurait voulu, on est toujours très exigeant, on aurait voulu avoir le début, hein, avec le début de cette fameuse liste, avec peut-être le titre, il y avait forcément un titre qui donnait le sens de la liste des souscripteurs, avec une phrase telle que Ollo a pu la restituer avec vraisemblance, sinon certitude, ceux-ci ont apporté, ont donné, kremata edokan, si on dit cela en dialecte, tei poli, tei teibéon, enton sunoiskismon, pour le cynécisme, un titre un peu comme cela. il ne figure pas dans le nouveau fragment. Nous avons en fait ici quelque chose qui tout de même nous apporte un élément nouveau, même indépendant de la chronologie, c'est de voir que des particuliers aussi, pas seulement des souverains ou des cités, ont fait des gestes plus ou moins importants en faveur de Thèbes. Il est vrai qu'on avait dans le fragment ancien la mention à deux reprises d'un personnage qui ne semblait pas être un roi. Ici, ce Philoclès, hein, est déjà ici selon toute apparence. Mais ce Philoclès n'était pas en fait un particulier à proprement parler, c'était un agent des rois Ptolémée, un important personnage connu par de nombreuses inscriptions du début du IIIe siècle, et qui agissait ici très certainement au nom des Lagides. J'y reviendrai au séminaire, car la restitution là ne me paraît pas, parfaitement adaptée. Ce qu'apporte le nouveau fragment, c'est donc essentiellement des particuliers, mais comme, et on le verra, on peut faire des identifications, dont deux au moins sont tout à fait assurées, et qu'elles concernent de hauts personnages macédoniens, dont un est à coup sûr un officier d'Alexandre lui-même, dans la campagne d'Asie et jusqu'en Inde. On a donc la preuve, non seulement que la liste date bien et bien de la fin du IVe siècle, mais qu'il y avait, parmi ses contributeurs, parmi ses souscripteurs, des gens très proches d'Alexandre. Hein. Et on voit par là que l'idée que Cassandre ait fait ça par haine d'Alexandre est, une fois de plus, très invraisemblable. Il a su convaincre, en tout cas, une partie de l'aristocratie macédonienne elle-même, qu'il avait à ses côtés, qui était ses philoi, si l'on veut, que c'était une bonne chose que de construire, reconstruire Thèbes, comme c'était une bonne chose que de reconstruire la ville de Potidée sous le nom de Cassandreia, comme de construire la ville de Thessalonique au nom de la sœur d'Alexandre. Donc un vaste programme de reconstruction sur lequel là, je ne vais pas m'étendre davantage. Donc, à partir de 315, on peut dire que Thèbes reprend peu à peu vie. Mais il ne faudrait pas s'y méprendre. C'est une ville en chantier et qui va le rester sans doute pendant des années, puisque plusieurs rois qui sont mentionnés ici à la fin, avec le titre royal, n'ont pu intervenir qu'après 306. En effet, ces diadoques, ces maréchaux d'Alexandre, ne portent pas le titre royal de Basileus, Basileus, ici, sous une forme dialectale, avant l'année 306. C'est donc ce qu'on appelle un terminus, hein, pour la confection de la liste, pour l'intervention de ces personnages. En 306 encore, dès le début du IIIe siècle, il y a des interventions en faveur de Thèbes. Chose intéressante aussi, dans cette même perspective, le nom même du roi Damatrios, ici, il était très difficile à lire, non pas seulement à cause de l'usure, mais parce qu'il avait été martelé dès l'Antiquité. Hein. Or, un martelage, c'est toujours quelque chose de très significatif. Comme disait notre maître Louis Robert, un martelage, c'est l'indice d'un drame, petit ou grand. Or, il paraît clair que cela doit être mis en relation avec le discrédit où tomba ce souverain, qui était fort batailleur, irascible, le Polyorcète, Démétrios Polyorcète, après les deux ou trois sièges qu'il fit subir à la ville de Thèbes à partir de 294, 292, de 291, une époque où Thèbes a été en but à l'hostilité de ce Démétrios Polyorcète qu'il avait aidé 10 ans plus tôt. Que font les Thébains? Ils ont la liste des souscripteurs sous leurs yeux. Eh bien, ils effacent le nom de Démétrios, qui désormais est leur ennemi. Et donc, ça prouve que la liste était en place, hein, gravée, dès avant 295, est placé en bonne vue, en bonne place sur, à l'intérieur de la ville. Dans toute cette période, je crois encore une fois qu'on s'est très peu préoccupé d'ériger des monuments honorifiques, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Il a fallu aller au plus pressé. Dans le cas de Démétrios, vous voyez, il a donné de l'argent pour faire un Elaiokreisteion, c'est-à-dire pour établir un fonds pour l'huile dont avaient besoin les jeunes gens, les éphèbes au gymnase. De ce dénuement thébain, on a peut-être un curieux témoignage dans un document publié en 1970 par l'épigraphiste Paul Rush. C'est un décret honorifique, une proxénie, donc qui accorde un privilège à un étranger, en l'occurrence un citoyen de la petite ville d'Antikyra de Phocide. Le morceau conservé que vous avez sous les yeux montre qu'il lui en fait deux phases dans la gravure. Hein. Même si la pierre est loin d'être complète. Une première inscription qui est tout à fait intacte en bas montre une écriture parfaitement régulière, très soignée, que l'on peut attribuer sans aucun mal au milieu du IVe siècle. Mais plus tard, on a fait disparaître une partie au moins, hein, en regravant de l'inscription ancienne. L'éditeur a bien vu que la meilleure façon d'expliquer cette singulière regravure était d'admettre que la cité réutilisa après 315 des stèles déjà gravées avec des formules qu'on pouvait réutiliser, hein, et cela à des fins d'économie. Donc un signe assez clair de dénuement. Mais une difficulté quand même subsistait. Pourquoi donc avait-on pris la peine de regraver le nom des Thébains ici, vous voyez, Thébéon, hein, puisque ça fait partie de la formule, la cité de Thèbes qui était l'organe à octroyer la proxénie. Ça paraissait un peu bizarre. Depuis longtemps, il me semble évident que l'opération ne peut s'expliquer raisonnablement que si l'on admet que se trouvait à cet endroit, donc là où était le nom de la police Thébéon, le nom du Koinon Boyoton. Puisque tous les décrets antérieurs à 335 sont en réalité, non pas des décrets de Thèbes, mais des décrets, on l'a vu, dans la mesure où Thèbes a la prétention de parler au nom des Béotiens dans leur ensemble, de représenter à elle seule le Koinon Boyoton, tous les décrets, il n'y a pas de décret des Thébains avant 335. Même si Thèbes agit souverainement, il n'y a que des décrets du Koinon Boyoton. En après 315, il n'est plus question pour Thèbes de reprendre cette formule. Il n'y a plus aucun droit. Et elle grave le nom des Thébains. Elle fait exactement le contraire de ce que d'Epaminondas avait fait, vous vous en souvenez peut-être, lors des négociations de 371 avant l'Euctre, où il exigeait de pouvoir parler, hein, au nom des Béotiens. Désormais, il faut faire l'inverse, il faut métagraphein, hein, il faut passer des Béotiens aux Thébains. Ça pose en fait une question fondamentale, celle de savoir quel fut le statut politique de Thèbes une fois reconstruite en 315. L'opinion des modernes est que les Thébains n'eurent pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir réintégrer le Koinon Boyoton. Le grand historien que fut Carl Julius Bellor, dans une histoire grecque qui est encore un ouvrage de référence pour la chronologie en particulier, estimait, c'est une position un peu extrême, que Cassandre avait fait en réalité d'une pierre deux coups. lorsqu'il entra en contact avec les Béotiens, pour leur soumettre son projet, il aurait réussi à convaincre les Béotiens, Peisas, tous, Boyotus, le terme se trouve chez Diodore, très intéressant, il faut que Cassandre, tout roi, enfin prince, il n'est pas encore roi, qu'il ait convaincre les Béotiens de la reconstruction de Thèbes. Hein? Peisas, Peisas, tous, Boyotus, il a fallu de la persuasion, Peito, hein? On aurait bien voulu que Diodore nous dise quels étaient les arguments utilisés. En tout cas, pas la haine d'Alexandre, certainement pas. Que non seulement ils ne fassent pas obstacle, ces Béotiens, à la reconstruction de Thèbes, mais qu'ils admettent la nouvelle cité d'emblée au sein de leur État fédéral. L'hypothèse est toutefois irrecevable, puisque les événements survenus encore en 312 montrent sans équivoque, à travers le récit de Diodore, que les Thébains et les Béotiens n'étaient pas du tout dans le même camp. De fait, la majeure partie des historiens modernes, après Bellor, ont estimé que la réintégration de Thèbes se réalisa seulement après 312, juste après 312. Mais à l'examen, cette datation elle-même n'est pas acceptable. En effet, Diodore de Sicile, qui fournit la trame des événements pour cette fin du IVe siècle, nous apprend que lorsque le lieutenant d'Antigone le Borgne, Antigone Monophthalmos, cet adversaire le plus décidé de Cassandre, envoya en Grèce son neveu Polémaios, et que celui-ci débarqua en Béotie avec toute une armée au printemps 312, il obtint l'appui militaire du Koinon Boyoton, et réussit à enlever un certain nombre de villes côtières qu'il remet à ses alliés béotiens, tout en prenant Thèbes, dont il expulse la garnison mise par Cassandre. C'est, selon la plupart des historiens, encore une fois, qui l'affirment encore, c'est à ce moment-là que se situerait donc le moment précis où Thèbes, libéré de la garnison de Cassandre, aurait retrouvé sa place toute naturelle au sein du koinon des cités béotiennes. Oui, cette opinion semble de prime abord pouvoir s'autoriser du passage où Pausanias, à propos des Daidala de Platée, dont nous avions parlé l'année dernière, dit que les Thébains, une fois leur cité rétablie par Cassandre, manifestèrent la volonté de se réconcilier avec les gens de Platée, qui organisaient la fête, d'envoyer des représentants lors du sacrifice, et plus généralement, de participer au koinos sullogos, donc à l'Assemblée commune, à l'État fédéral béotien, chapitre 3 du livre 9. Mais il est clair que cette dédication ne signifie nullement que cette tentative eut lieu au lendemain de 315. Elle ne permet même pas de conclure que la chose se fit encore du vivant du nouveau Ctistès, c'est-à-dire avant 297, date bien établie de la mort de Cassandre. Il s'agit simplement d'un terminus, hein, après 315, mais combien de temps après, le texte de Pausanias ne le dit pas. De fait, la chronologie traditionnelle pour la réintégration de Thèbes, qui, à l'examen, remonte d'ailleurs à une dissertation allemande assez mince de 1882, ne serait sans doute jamais devenue l'opinion communiste si elle n'avait reçu presque aussitôt, ou si elle avait paru recevoir presque aussitôt, une confirmation épigraphique. En effet, dès 1885, dans ces fouilles du Ptoion d'Acraïfia, vous vous souvenez où est le Ptoion, hein, ici, et Acraïfia, Maurice Hollot, encore lui, encore tellement actif à la fin du XIXe siècle dans l'archéologie et l'histoire béotienne, redécouvrit aussi dans ce sanctuaire une série de bases fédérales qui étaient d'un très grand intérêt historique et dont certaines, quatre en tout cas, pouvait être datée précisément, pensait-il, des années 312-314. C'est que l'une d'elles présentait une particularité très remarquable, à laquelle j'avais fait autrefois allusion, c'est que parmi les collèges, dans le collège des magistrats fédéraux, les affédriates en l'occurrence, il y avait non seulement sept béotiens, dont un thébain, mais il y avait aussi un homme de Chalcis 2b, un Chalcideios que vous avez ici, Chalcideios en langue commune, un citoyen de la ville de Chalcis. Et alors, Ollo rapprocha ce fait tout à fait singulier d'une mention chez Diodore de Sicile, livre 20, chapitre 27, de l'occupation par les Béotiens de la ville de Chalcis en 304. En 304, il y avait, au moment où arrive Démétrios Polyorcète, une garnison béotienne à Chalcis. Ollo se dit, voilà les circonstances où on peut admettre que Chalcis a été intégré à la confédération béotienne. Ça permettait, pour le dire très vite, à situer dans les années 308-304, non seulement cette base, mais trois autres semblables qui étaient liées par les carrières de plusieurs personnages, notamment par le même devin Onumastos, ici, de Thespi, dans cette petite tranche de la fin du IVe siècle. Et alors, quelles conséquences pour Thèbes? C'est que c'était la preuve que dès 308, peut-être déjà avant, Thèbes non seulement avait réintégré le koinon béotien, puisqu'il y avait un magistrat thébain, mais mieux, il y avait à deux reprises un archonte qui était de Thèbes. Et la conséquence, évidemment, c'est que Thèbes était non seulement un membre à part entière de nouveau de la Confédération, mais qu'il occupait là une position prépondérante. En fait, cette chronologie s'est imposée, on peut dire, jusqu'ici, et qui a peut-être obligé les successeurs de Ollo, et notamment l'épigraphiste et historien Paul Rush, d'accepter cette conclusion pour en essayant de concilier cette conclusion avec ses propres réticences concernant l'adhésion rapide de Thèbes à la Confédération béotienne, car Paul Rush se rendait compte que c'était difficile d'admettre cette réintégration immédiate, étant donné l'hostilité profonde des autres béotiens, qu'il avait fallu persuader, qui était certainement très réfractaire. Paul Rush, pour le dire en quelques mots et avant de conclure, a essayé, en utilisant les inscriptions, en utilisant la manière dont les ethniques apparaissaient dans les inscriptions, où s'opposait le terme de Boyotoi au terme de Tebayoi, selon un découpage chronologique très, je dirais d'emblée, trop subtil, de penser que Thèbes était entré provisoirement en 309 dans la Confédération pour respecter les chronologies de Ollo, qu'elle en était ressortie en 292, qu'elle a été indépendante du koinon entre 92 et 87 pour entrer finalement de façon définitive dans le koinon. Ces allées et venues donc ont été ne sont le fait que d'une hypothèse un peu désespérée fondée sur une série d'inscriptions qui n'impose pas du tout cette conclusion, car quand on regarde en réalité ces ethniques, on constate que avant les années 280, il n'y a jamais de Béotien qui vient de Thèbes. Il n'y a jamais de Boyotos ek Thébon. Alors qu'il y a des Boyotoi ek Orchomenou, des Boyotoi ek Plataieon, ou etc. Thèbes reste tout à fait à part de la Confédération encore dans les deux première, en tout cas le début du troisième siècle. C'est là la leçon qu'il faut tirer de l'usage des ethniques. Je montre par exemple très rapidement ce document athénien qui est une liste de mercenaires, avec toutes sortes d'origines pour ces mercenaires, des traces dans la première colonne à partir de l'onomastique, et c'est une liste que l'on peut dater très précisément des alentours de 300. C'était des mercenaires au service du tyran d'Athènes, Lacarès, vers 300-295 avant Jésus-Christ. En tout cas, on est après 315, puisqu'il y a des gens de Cassandreia, fondée par Cassandre, en 315, interminus postquem. Or, vous constatez que dans une telle liste, hein, et nous sommes vers 300 encore, il y a deux Thébaïoï et il y a un ou plusieurs Boyotoï. Ce sont deux états totalement séparés. Ça peut paraître extrêmement difficile à concevoir que la capitale ancienne de la Béotie ne fasse pas partie du koinon béotien, et pourtant c'est une réalité. Thèbes ne reste qu'une forteresse au milieu de la Béotie, avec un koinon qui se développe à ses côtés, et il faut attendre donc l'année 287 où Démétrios de Guerlas doit rendre aux Thébains, selon Plutarque, leur constitution, leur politéia, 287, pour que, enfin, après 20 années de séparation, de schisme, Thèbes, qui a beaucoup souffert, et c'est peut-être cette souffrance qui lui vaut, en fin de compte, la sympathie aussi des autres Béotiens, soit finalement acceptée dans le koinon médian. Vous voyez donc qu'il faut distinguer totalement, contrairement à ce qu'on a fait jusqu'ici, il faut distinguer totalement la reconstruction de Thèbes, hein, comme ville fortifiée et indépendante, et sa réintégration dans le koinon, dans un koinon entièrement renouvelé, où Thèbes aura sa place, mais une place bien limitée, hein, on se gardera de lui permettre les débordements qu'elle avait montré pendant tout le IVe siècle. Voici donc résumé cet épisode de la réintégration de Thèbes.
C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec Denis Knopfler. Réalisation Thomas Duterre. Présentation Christine Goémé. Votre matinée sur France Culture. 9h05, la fabrique de l'histoire. Cette semaine, histoire de l'innovation et ce matin, mémoire de groupe. 1966, la France lance le plan calcul, une stratégie de développement approuvée par le général de Gaulle pour permettre à la France d'avoir une industrie informatique au service de son indépendance nationale. Documentaire suivi d'un débat en compagnie d'Éric Mounier-Koun, ingénieur au CNRS.
10h les humanités, ce matin les mardis littéraires se consacrent aux quêtes et enquêtes à propos d'anthropologie d'Éric Chauvier, de Dancing d'Alain Weinstein, la procession d'Echternach d'Hervé Carne, une émission en compagnie des trois auteurs. 11h les chemins de la connaissance, cette semaine dans un ralentir travaux explore l'œuvre et l'enseignement de Charles Malamud, anthropologue et linguiste, directeur d'études honoraires à la section des sciences religieuses de l'école pratique des hautes études et spécialiste de l'Inde. Deuxième volet autour de Cuire le monde. Allez, réveillez-vous, les matins de France Culture ont sonné, l'heure de retrouver Ali Badou.
Bonjour à tous, c'est bon réveil, il est 6h59, un petit mot du programme de l'émission ce mardi 26 septembre. À 7h20, les enjeux internationaux mettront le cap sur le Proche-Orient. Au programme des enjeux aujourd'hui, le facteur démographique, acteur des rapports de force israélo-palestiniens. Et puis à 8h20, on parlera du film Indigène, vous savez que le film de Rachid Bouchareb sort demain dans les salles. Un film qui suscite déjà et qui va continuer à susciter, à n'en pas douter, de très nombreuses réactions qui vont évidemment bien au-delà de la critique cinématographique. On a demandé à l'historien Benjamin Stora d'aller voir ce film et il nous dira ce qu'il en a pensé, ainsi que des débats qui l'accompagnent. On parlera aussi avec lui du livre qu'il publie ces jours-ci, Les Trois Exils des Juifs d'Algérie. Benjamin Stora est notre invité ce matin. Vous écoutez France Culture, il est 7h. Et le journal est présenté par Marie-Pierre Véraud. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Ali et bonjour à tous. La Bulgarie et la Roumanie, oui, mais la Turquie et la Croatie risquent fort de patienter encore à la porte de l'Union. La Commission devrait annoncer tout à l'heure qu'elle accepte l'entrée de deux nouveaux États membres, mais son président plaide ensuite pour une pause dans l'élargissement. Avec Quentin Dickinson à Bruxelles, nous verrons que les deux futurs membres de l'Union sont loin d'être au niveau, notamment en matière de lutte contre la corruption. Dans cette édition, nous irons également retrouver Frédéric Charles à Tokyo, alors que Shinzo Abe vient d'être officiellement désigné Premier ministre du Japon par le Parlement. Et nous tenterons de savoir si son credo nationaliste est aussi féroce qu'on le dit. En France, nous reviendrons à l'Assemblée où se poursuit le débat sur la privatisation de GDF. Et puis avec François-René Christiani, nous irons constater l'état de préparation du Parti socialiste qui doit tout à l'heure définir les règles du jeu entre prochains candidats. Il faudra donc dire les 27 à partir du 1er janvier prochain, l'Europe des 27 qui s'enrichira alors de la Bulgarie et de la Roumanie. La Commission doit confirmer tout à l'heure l'entrée de ces deux nouveaux États membres. Sofia et Bucarest sont pourtant loin d'avoir satisfait aux conditions nécessaires. Elles se verront donc imposer un mécanisme inédit de surveillance permanente des réformes. Mais les restrictions sont moins sévères que prévu. Les fameuses clauses de sauvegarde ne seront ainsi pas activées dans l'immédiat. Une façon de ne pas humilier les deux nouveaux entrants, mais également de ne pas avoir l'air d'accepter des pays qui ne satisfont pas aux critères nécessaires. Trois domaines préoccupent en tout cas plus particulièrement l'Union et feront donc l'objet de cette surveillance approfondie. La justice, la gestion des fonds européens et la sécurité alimentaire. Quentin Dickinson nous appelle de Bruxelles.
Pas plus que pour les 10 nouveaux pays membres entrés dans l'UE en mai 2004, la Commission européenne n'aura-t-elle résisté longtemps aux forces politiques qui la pressaient de toutes parts de donner le feu vert à ce nouvel élargissement, alors que, de toute évidence et de l'avis même des fonctionnaires chargés du secteur, la Roumanie et la Bulgarie sont loin de remplir l'ensemble des critères objectifs pour devenir membres de plein exercice de l'Union. D'où les nombreuses clauses de sauvegarde destinées à suspendre l'aide européenne pour le cas où Bucarest et Sofia ne poursuivraient pas assez diligemment après leur entrée, le rattrapage qu'elles auraient dû s'imposer avant leur adhésion. Cela dit, la Roumanie et la Bulgarie ne sont ni identiques ni interchangeables. Près de 4 fois plus peuplée que sa voisine du Sud, la Roumanie ne devra pas compter avant longtemps exporter sa main-d'œuvre vers les 25. De même, les subventions à l'agriculture, insuffisamment mécanisées et à la main-d'œuvre pléthorique, seront sévèrement limitées et contrôlées. Les points communs aux deux, en revanche, sont autrement plus préoccupants. Leurs systèmes judiciaires ont besoin d'être réformés d'urgence et en profondeur, et la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et la criminalité organisée n'est pas vraiment encore menée avec tout le zèle voulu.
Une Europe à 27 donc, mais ensuite une pause dans l'élargissement. C'est le plaidoyer du président de la Commission, José Manuel Duran Barroso, qui estime qu'après l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie, l'Union devra réformer ses institutions avant d'accueillir tout nouvel État membre. Voilà qui inquiète fort Ankara, alors que la Turquie est entrée dans le processus de négociation préalable à une adhésion. Successeur naturel de Tony Blair et avide de battre les conservateurs de David Cameron. C'est ainsi que Gordon Brown s'est présenté hier lors du congrès travailliste. Son discours a été longuement applaudi, 3 minutes. On chronométrera donc ce mardi l'ovation que réserveront ou non les délégués à Tony Blair qui doit prononcer son discours d'adieu. Sa mission, ce sera, a-t-il dit et répété, de renforcer le rôle du Japon sur la scène internationale. Shinzo Abe est devenu aujourd'hui le plus jeune Premier ministre nippon, le premier également né après la Deuxième Guerre mondiale. Et il est volontiers présenté comme un faucon, soucieux de tourner la page de la défaite et de faire de son pays un pays fort et décomplexé. Alors pour en parler ce matin, nous sommes en ligne...